Vous écoutez France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin, au micro de France Culture, nous allons nous transporter dans le sud de l'Inde en compagnie de Chantal Toufanian. Bonjour.
Bonjour.
Pour explorer le passé des Arméniens de Madras. Alors, je crois qu'on ne dit plus vraiment Madras maintenant, Chennai.
Voilà, Chennai, les habitants du lieu tiennent beaucoup à ce changement de terminologie qui s'est effectué dans les années 90.
Alors, vous allez nous expliquer un peu plus en profondeur cette évolution. Vous enseignez la philosophie.
Absolument.
Et vous avez fait une thèse d'histoire avec Claire Mouradian à l'EHESS.
Oui.
Je me permets de préciser que Claire Mouradian est déjà venue dans notre
émission.
Oui,
historienne.
Historienne reconnue.
Oui.
Mais vous êtes aussi journaliste et j'ai connu votre travail par un très beau reportage paru dans un numéro de France-Arménie en avril dernier.
Oui.
Chennai se souvient encore de ces Arméniens.
Mm-hmm.
Alors ma première question, tout simplement, serait de savoir comment vos pas ont croisé ceux de ces Arméniens du bout du monde.
Comme vous l'avez rappelé, ma formation initiale est en philosophie et je me suis toujours intéressée à ce qui pouvait intéresser un philosophe dans la culture arménienne. Je dois dire que la théologie a absorbé un peu la philosophie, mais au cours de mes lectures, il y a une référence qui revenait tout le temps et c'était un certain livre paru à Madras en 1773, intitulé, donc si on traduit en français, Le piège de l'orgueil, Voloka et Paratz en arménien.
Le piège de l'orgueil, un très beau titre.
Voilà, qu'on pourrait traduire aussi par le piège de la gloire. Enfin, c'est le sens globalement, c'est un piège pour l'orgueil. En fait, c'est un dispositif de loi qui est destiné à empêcher les citoyens de faire preuve d'orgueil et de donc les empêcher d'être au-dessus des lois. Et alors, cette référence revenait tout le temps, ce piège de l'orgueil, dans la littérature arménienne, comme étant une œuvre très importante, le début de la pensée politique moderne arménienne, que c'était un texte qu'on pouvait apparenter au mouvement des Lumières. Alors, comme c'est quand même aux antipodes, pratiquement à Madras, donc dans le sud-est de l'Inde, déjà, je n'avais pas d'idée très claire sur ce que les Arméniens faisaient là-bas, mais on va y revenir.
On va y revenir, bien sûr.
Et puis, ce texte, donc, a vraiment éveillé ma curiosité. J'ai voulu en savoir plus. Et là, la difficulté, c'est qu'en fait, il est introuvable. Il en existe quelques exemplaires qui sont les anciens imprimés du XVIIIe siècle, dans des bibliothèques très, très pointues et importantes en Arménie, comme l'Institut des manuscrits, mais qui a aussi d'anciens imprimés. Il y a un exemplaire là-bas, je ne sais pas s'il y en a encore ailleurs. Il a été traduit en arménien moderne, mais de façon très rapide, avec des erreurs et un appareil critique très, très pauvre. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu vraiment connaître ce texte qui était d'une importance capitale. C'est un texte de 350 pages à peu près. C'est vraiment...
Alors, c'est un texte philosophique ou juridique ?
Alors voilà, c'est un texte...
Ou les deux, peut-être.
Voilà, dans sa première partie, plutôt philosophique, dans sa seconde partie, juridique. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à l'époque, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'Arménie. Donc pourquoi...
Resituez-nous alors la période, surtout.
Au XVIIIe siècle, dans les années 1770 ou 80, l'Arménie, enfin du Caucase, bon, une partie, disons, l'Arménie, Van, etc., l'Arménie historique se trouve dans l'Empire ottoman, et le Caucase, avec Etchmiadzin, le Saint-Siège, Yerevan, la capitale actuelle de l'Arménie, font partie de la Perse. Et donc, il n'y a absolument pas de territoire indépendant, sauf peut-être un peu chez les Méliques du Karabakh, qui résistent un petit peu à la domination locale, enfin disons, exercée au nom de la Perse. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, bon, j'ai vu ça au cours de mes recherches, en 1783, un roi géorgien a signé un traité avec Catherine de Russie, enfin représentée sur place par le prince Potemkin, un traité par lequel la Russie s'engageait à devenir protectrice non seulement des États actuels de Iraklie II, ce roi géorgien de Géorgie orientale, mais aussi protectrice de tous les territoires qu'il pourrait acquérir à l'avenir. Donc là, il semble qu'un certain nombre d'Arméniens qui souhaitaient la libération du pays ont pensé qu'une alliance était possible avec ce prince chrétien qui en plus était bagratide, c'est-à-dire d'une maison royale qui a une branche arménienne et une branche géorgienne. Et donc, voilà, dans un premier temps, le premier pas vers la libération, c'était ça, historiquement. Alors, pourquoi est-ce que ce sont ceux de Madras qui se sont mobilisés pour correspondre avec Iraklie, pour avoir des relations avec lui, avec le catholicos? Peut-être qu'une des explications, c'est leur pouvoir économique, leur très, très grand pouvoir économique. Et donc, bon, ils étaient certainement très écoutés.
Voilà, parce que quand on lit ce reportage, alors que je mettrai... que je ferai mettre en ligne sur le site de Chrétien d'Orient, donc les auditeurs pourront se le procurer. On découvre effectivement une communauté marchande assez importante, oui. De grands mécènes qui financent une église, qui financent un pont, qui financent des infrastructures. Alors, pour que ce soit vraiment très clair, à partir de quand trouve-t-on une communauté d'Arméniens installée dans le sud de l'Inde?
Alors, à Madras, parce que disons qu'il y a eu des Arméniens avant, mais plus au nord, à l'époque des rois moghols, en fait, à Agra plutôt. Mais à Madras, le premier Arménien enterré à Madras, la plus vieille tombe, date de 1667. Donc, c'est vraiment une émigration à partir de la nouvelle Julfa. Donc, j'explique rapidement qu'il y avait une ville dans le sud des territoires arméniens du Caucase, l'actuelle région du Nakhitchevan, enfin qui s'appelle Nakhitchevan depuis fort longtemps. Il y avait là une ville.
Donc, qui est en Iran aujourd'hui?
Non, c'est une enclave azerbaïdjanaise.
Voilà, c'est cette zone conflictuelle. Voilà,
c'est
qui
ça.
Et
juste en face, c'est l'Iran. Hein. Donc, c'est juste entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, mais c'est en fait une enclave en Arménie.
Julfa.
Voilà. Et là, il y avait une cité marchande déjà, cette ancienne Julfa, depuis très longtemps. C'est déjà une des routes de la soie, en fait. Et puis, alors au cours de ces démêlés militaires avec les Ottomans, le Shah Abbas, un des premiers souverains safavides, a estimé d'une part qu'il avait besoin d'artisans et de marchands dans sa nouvelle capitale, Ispahan. Et puis, il a aussi, pour décevoir les Ottomans, voulu pratiquer ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire il a voulu vider ces territoires de leur population. Donc on parle beaucoup de Julfa qui a été complètement vidée. 20 000 habitants de Julfa ont été emmenés à pied jusqu'à Ispahan. Il en est arrivé seulement 4 000 sur les 20 000 de départ. Mais il y a aussi des Géorgiens et d'autres populations du Nakhitchevan et de la vallée du fleuve Arax qui ont été déportés par la même occasion. Ensuite, donc, dans les années 1603, par là, le Shah, toujours le même Abbas Ier, a donné un petit territoire à l'extérieur d'Ispahan, à l'extérieur de sa capitale, en disant aux Arméniens, il y a un firmament qui le dit, voilà, bah, ce sera chez vous. Donc les Arméniens ont décidé d'appeler leur nouveau quartier la Nouvelle Julfa.
Et qui est toujours habitée, je crois, par des communautés arméniennes.
Tout à fait. C'était comme une espèce, là aussi, d'enclave, un petit état dans l'état. Il y avait un représentant des Arméniens.
Mais je veux dire, à notre époque.
À notre époque aussi, oui. C'est,
il y a un quartier arménien dans la ville d'Ispahan.
Alors c'est en fait à l'extérieur. C'est quand même à l'extérieur parce que les chrétiens sont quand même impurs. Et Jeanne Dieu la Foi, par exemple, dans sa mission au XIXe siècle, raconte que les Arméniens n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville parce qu'il y avait un fleuve qui sépare encore la nouvelle Julfa, là aussi avec un pont, et puis Ispahan City, si j'ose dire. Et Jeanne Dieu Lafoy dit que les Arméniens n'avaient pas le droit d'aller dans Ispahan les jours de pluie parce que l'eau qui ruisselait sur eux pouvait aller par, enfin, allait par terre et pouvait donc salir un vrai croyant qui aurait mis les pieds dans cette eau, dans cette eau impure. C'est toujours très ambigu, ces relations, hein. Donc, toujours est-il que le Shah Abbas a vu le bénéfice qu'il pouvait tirer de cette communauté marchande. Et puis, il faut dire aussi que ces marchands se sont considérablement enrichis, enrichissant au passage la Perse, dans le commerce de la soie, principalement. Alors ça, c'est un épisode que moi, je n'ai pas directement étudié, parce que moi, je me situe plutôt sur le plan de l'histoire des idées au XVIIIe siècle.
Oui.
Mais là, on est au XVIIe siècle, et au niveau de l'histoire économique, tout cela a été très, très bien étudié par des chercheurs tels que Ina Bardiand, tels que Sebou Aslanian, et bien d'autres encore. Il y en a eu d'autres en Arménie. Donc, on sait que le réseau marchand des Arméniens de la Nouvelle Djoulfa était un réseau, et on le sait par les voyageurs français aussi, Jean Chardin, Tavernier.
Qui les décrivent beaucoup.
Voilà, voilà. Donc, on sait que
c'était... Parce que ces communautés-là pouvaient recevoir les marchands étrangers,
absolument,
peut-être.
Absolument, oui, oui, oui. Et les missions aussi, les missionnaires qui se sont un petit peu accrochés à eux pour les frères Uniates, et puis ensuite, bien d'autres, à partir du moment de la propagation de la foi, propaganda fide, ils ont vraiment voulu ramener ces églises orientales dans le giron de Rome. Et donc c'était un réseau commerçant qui s'appuyait beaucoup sur les liens familiaux. Donc il n'y avait pas d'assurance entre eux, mais du moment que vous étiez le beau-frère du cousin d'un tel, etc., ils se connaissaient depuis plusieurs générations, personne n'avait intérêt à être malhonnête, parce que sinon sa réputation était ruinée, celle de sa famille, de son clan, etc., à tout jamais. Donc c'était un réseau qui fonctionnait d'une façon très très intéressante. Et Madras était l'un des points de cet immense réseau qui va d'Alkhangelsk à Alkhangelsk, au nord de la Russie, à l'ouest, Amsterdam. Voilà, d'autres villes, encore Séville aussi si on va vers le sud, Venise bien sûr, et puis alors dans l'Asie du Sud-Est, Singapour, Penang, Malacca, donc, il y a encore d'ailleurs, on en reparlera plus tard, je prépare une exposition pour cet été à Chennai, il y a des Armenian Street un peu partout. Voilà, Armenian Street. Un peu partout, il y en a une à Penang, il y en a une à Singapour, donc il y en a évidemment une à Madras. Et donc j'ai commencé à réunir toutes les photos de tous ces panneaux. Alors Lebu Armenian, par exemple, à Penang, Lebu ça veut dire petite rue, c'est ce qu'on m'a dit, ou Armenian Street en anglais. Et donc c'est étonnant parce que ça veut dire que non seulement les Arméniens qui vivaient là se sont fait construire des églises, des maisons, etc., mais ils étaient suffisamment, parce que c'est pas eux qui nommaient les rues quand même, ils étaient suffisamment nombreux dans leur secteur pour que les habitants des lieux, eh bien, aient trouvé ce nom-là pour désigner leur quartier. Quand il n'y a pas d'Armenian Street, il y a des Armenian Bridge, en général, des ponts arméniens, comme à Amsterdam.
Alors, on va revenir un petit peu sur la description de, oui. De ce patrimoine, justement, de Chennai, qui me semble très intéressant. Je voudrais juste, pour que ce soit clair, peut-être un peu de géographie, quand on se base d'un point de vue persan, le golfe, donc le détroit d'Ormuz, le golfe persique, après, c'est l'océan Indien.
Oui.
Donc, est-ce que c'est pas finalement ces vieilles routes des comptoirs perses, les comptoirs portugais aussi, qui ont été après utilisés et qui ont mené jusqu'en Chine.
Oui, tout à fait. À Canton aussi, il y avait un établissement. Absolument. De toute façon, la raison d'être des Arméniens là-bas, c'était le commerce. C'était des comptoirs commerciaux. À cette différence près que les Arméniens y étaient avant tous les colonisateurs, avec les Juifs séfarades d'ailleurs, avant tous les colonisateurs européens, et qu'ils y allaient sans pays, sans armée, sans drapeau, et que leur but était uniquement un commerce pacifique. Ils n'avaient pas du tout l'intention de s'accaparer. Enfin, ils n'avaient absolument pas les moyens de toute façon. Ils étaient même... Enfin, leur bateau battait pavillon avec l'agneau pascal. Enfin, l'agneau. Un agneau, parce que il n'y avait pas de...
Nous avons reçu un petit peu avant vous, oui. Kéram Kévonian.
Voilà, donc c'est... Voilà. Voilà,
il nous a bien expliqué cette flotte arménienne avec un pavillon incroyable.
Voilà. Et le dessin qu'il a fait constitue la couverture d'un livre consacré aux hommes d'affaires arméniens dans l'océan Indien.
Alors revenons à Chennai. Que trouve-t-on maintenant lié à ce patrimoine ? Il y a une église, je crois.
Oui, c'est ça. Donc il y a une église qui est dans Armenian Street. Il y a aussi des inscriptions un peu partout, alors sur des murs, sur des tombes qui sont dans des églises catholiques, ou maintenant même certaines de ces anciennes églises catholiques sont devenues des églises protestantes. Et donc ça, c'est assez phénoménal. Partout où on allait, quoi, il y avait des...
Des tombes écrites en arménien.
Voilà. Alors parfois écrites en arménien et en latin. Ou parfois en arménien et en portugais, ce qui veut dire que ces gens s'étaient probablement convertis au catholicisme. Mais malgré tout, il y a toujours des inscriptions en arménien sur ces tombes-là aussi. Il y a une autre rue qui s'appelle la rue Haratun, qui veut dire Harutyun, parce que bon, les noms sont facilement déformés. Sur cette hauteur que les gens de Chennai appellent Saint Thomas Mount, bon, c'est une toute petite montagne, parce que Saint Thomas, l'apôtre, serait mort là-bas.
Voilà.
Donc voilà, il y a une basilique, il y a plusieurs églises consacrées à Saint Thomas. Une des personnalités brillantes de cette ville, qui se faisait appeler en latin Petrus Uscan,
qui était un grand mécène.
Voilà, grand mécène, donc qui a fait construire un pont. Et puis dans le prolongement de ce pont, 350 ou je ne sais plus combien de marches pour arriver facilement au sommet de ce Saint Thomas Mount et arriver à l'église qui est là-haut et donc dans laquelle il devait aller assez souvent. Il s'est considérablement facilité la tâche avec ce pont, ces escaliers.
Alors vous rencontrez d'ailleurs sur place un chroniqueur, j'ai l'impression, oui. Quelqu'un qui est passionné par son propre héritage.
Voilà, voilà.
Et vous lui dites, mais la plaque a été recouverte de ciment dans la rénovation du pont. Et voilà. Lui est très sensible, en
absolument,
fait, à la protection
absolument.
De ce patrimoine.
C'est pour ça que j'ai voulu intituler ce reportage « Chennai se souvient de ses Arméniens », parce qu'il n'y a plus d'Arméniens là-bas depuis le 19e siècle.
Mais il y en a à Calcutta, vous dites.
Oui, il y en a à Calcutta qui était devenu un plus grand centre. Enfin, il n'y en a plus beaucoup non plus à Calcutta. Mais en fait, le port de Madras a chuté au profit de Calcutta, au 19e siècle. Et donc, logiquement, les fortunes ont suivi, les commerçants ont suivi le mouvement. Mais malgré l'absence maintenant d'Arméniens pour s'occuper de cet héritage, de ce patrimoine, eh bien j'ai été très étonnée du respect et de la curiosité de beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur place, comme donc de la part de Monsieur Moutaya, qui, en s'intéressant au patrimoine de leur ville, eh bien considèrent que les Arméniens en ont fait vraiment partie intégrante. Et donc lui, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit Madras redécouverte, Madras rediscovered, dans un ouvrage dans lequel il parle de tout ce qu'il a pu apprendre sur les Arméniens à partir du patrimoine actuel. Il écrit une fois par semaine dans le quotidien national The Hindu, toujours sur Madras. Ensuite, tous les 10 ans, il édite un livre qui est la compilation. Et puis, 2 fois par mois, il édite une autre revue qui s'appelle Madras Musings, qui est aussi en ligne, et dans laquelle il parle continuellement de ce patrimoine. Parce qu'il faut dire que le patrimoine, non seulement le patrimoine arménien de Madras est menacé, mais tout le patrimoine est menacé. En raison d'une urbanisation complètement anarchique. Donc là, pour cette fameuse plaque de Petrus Voskan, c'était un crève-cœur parce que donc d'ici, de France, beaucoup de gens m'avaient dit « va prendre des photos de la plaque, on fera un article, etc. » Cette plaque...
Donc vous y êtes allée ?
Oui, j'y suis allée.
Combien de voyages avez-vous fait là-bas ?
Oui, un seul. Mais j'y retourne là pour le deuxième. Voilà.
Et donc vous avez trouvé cette plaque ?
Oui, oui, mais grâce donc à tous ces contacts que j'avais là-bas et qui nous ont fait gagner beaucoup de temps. Donc, sur ce pont qu'il avait fait édifier, Petrus Voskan avait fait mettre une plaque noire en trois langues, en persan, en latin et en arménien en bas, sur laquelle il disait « voilà, je suis un tel, j'ai fait construire ce pont pour le bien public ». Là-dessus, les travaux du métro aérien de Chennai qui ont pris énormément de retard, tout le monde se plaint, c'est la confusion dans la circulation routière, etc. Les gens n'ont pas su ce que c'était, les constructeurs n'ont pas compris ce que c'était, et ils ont coulé du béton sur la plaque, et donc la partie arménienne de la plaque est ensevelie sous le béton. Et quand on en a parlé à Monsieur Moutaya, il était catastrophé, il nous a dit qu'il avait pourtant alerté le gouvernement du Tamil Nadu, qu'il en avait parlé à la compagnie en charge des travaux, que rien n'y avait fait. Donc nous, en tant que Société des études arméniennes, puisque je fais partie de la Société des études arméniennes, avec l'organisation Terre et Culture, qui a été fondée par Kerem Kevonian, justement.
Dont nous avons parlé plusieurs fois sur nos...
Voilà.
Sur notre,
eh bien, donc, nos deux associations se sont réunies pour écrire une belle lettre à l'ambassadeur d'Arménie en Inde, qui est à New Delhi, pour lui dire que, bon, il ne le sait peut-être pas, mais ce ne serait pas difficile de déterrer cette plaque, etc. On a envoyé la lettre au mois de mai, donc...
Et c'est un symbole contre l'oubli, peut-être ?
Mais bien sûr, bien sûr. Et surtout quand on voit que, par exemple, M. Moutaya m'a proposé de publier un article dans son Madras Musing là-dessus. Il m'a même proposé de publier la lettre à l'ambassadeur en tant que lettre ouverte. On a pensé que ce serait peut-être un peu agressif envers l'ambassadeur d'Arménie en Inde. On s'est dit, on va d'abord lui laisser sa chance. On va voir si, par quelques coups de fil, il peut résoudre le problème. Et vu qu'il ne nous répond même pas, alors qu'on lui a envoyé par deux canaux différents, par Internet et par courrier, puisqu'il ne nous répond pas, on va finir par passer... à la phase 2.
Donc ce qui est intéressant, c'est que votre lutte pour ce combat, disons, de la mémoire est relayée complètement sur place par ces personnes.
C'est presque plus eux qui nous donnent envie de lutter, parce que vu qu'eux, ils font des démarches et qu'ils sont vraiment très ouverts pour la protection de ce patrimoine, on dirait qu'ils prennent très, très au sérieux une phrase que Braudel avait dite dans un de ses ouvrages où il avait dit que serait Madras sans les Arméniens. Et effectivement, pour eux, c'est leur patrimoine, ils s'en occupent vraiment, enfin, ils s'en soucient beaucoup, donc je me dis qu'on ne peut pas faire moins qu'eux.
Chantal Toufanian, un immense merci pour être venu jusqu'à nous pour aborder cette histoire des Arméniens de Madras. Nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant. Je remercie Dany Journeau et Philippe Palares pour la réalisation et le son de cette émission que vous retrouvez en balado-diffusion sur le site internet de France Culture.